Merci Laetitia Gaillet, retour de l'info à midi. Florence Mendez, salut. Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et les invités Alice Paul et Dionys Cardillac.
Oh, c'est bien ça.
Moi, je dis que pour un jeudi, c'est bien.
C'est bien.
C'est bien pour un jeudi. On va évoquer ce film C'est Magnifique qui sort en salle le 1er juin prochain. Ce film qui est une forme de poésie, ouais, même carrément une poésie, qui est un...
C'est complètement onirique, c'est très agréable.
C'est une ode à la vie.
Et ça porte bien son nom. C'est joli, et c'est joli à voir. Et c'est joli à voir. Alors justement, le blind test, qui chante ?
Leïla, Sacha Distel ?
Non.
Je sais pas.
La vie est là.
Daniel,
oui.
Dario Moreno,
oui.
C'est magnifique,
c'est la musique du film.
Ah ouais. Pardon, je me dis ça me dit quelque chose. J'ai entendu il y a pas longtemps. Bah oui.
C'est magnifique.
C'était à ma fête.
Ah,
c'est magnifique. Qui chante ça?
Smooth.
Ah.
Florence,
tu prends le cocktail là? Carioca? Non. Écoute.
Alexis et Lafitte-Gérald.
Joli.
Waouh.
Tu sais quoi?
Ça aurait pu être un truc de bonus à la fin.
C'est magnifique.
Bravo.
Merci. Ça vous épate.
La voix.
La moi-même. Moi j'ai toujours cru en toi.
On peut écouter? J'adore, c'est tellement classe. Qui chante ça?
Morgane. Benjamin Biolay.
Joli.
Ah oui, c'est
magnifique. Oh là là. C'est magnifique.
On pourrait chanter, quoi.
Ça a commencé comme un Mélodie Gardot, tu sais.
Ouais.
Climat.
Comme une dépression.
Les
ouais, pareil.
Ça, non. Tu veux pas à chaque
c'est
fois.
Non, mais c'est pas ça. C'est que là, tu dis.
Mais il y a une version de Mélodie Gardot, c'est pour ça.
Non, mais c'est pas ça. Là, tu dis.
Qui dure 45
c'est
jours.
C'est magnifique. Pourquoi tu dis
oh
comme
là
ça
là.
Attends, regarde.
Ah oui, ah oui.
Mais c'est magnifique.
Et merveilleux.
Il monte dans les aigus, là.
Qui chante ça?
I just can't get enough.
La vie.
Daniel.
Et
oui.
Là.
Celui qui est en merde. Alania.
Non.
Non.
C'est
bon, ouais.
Daniel.
Luis Mariano.
Oui, non, non, non.
Eh, bim.
C'est magnifique.
Voilà.
Donc vous voulez qu'on t'aime ou pas?
Non. Je suis quand même parvenue à proposer I Just Can't Get Enough quand j'ai commencé comme ça.
Qui chante ça?
Ça c'est comme
bien.
Ah mais tu sais c'est pas
bah, on, si c'est pas ne le dis pas.
Française.
Karen Anne. Bah, c'est pas Peggy, celle qui fait bisou 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 là. Peggy Lee.
Bisou bisou bisou.
Voilà.
Peggy Lee, bien joué.
Miss Peggy.
Peggy bisou.
Peggy bisou. Oh, c'est un bon
qui
nom.
Qui chante ça,
ça et là, Dalida.
Mais attends.
Il y a du love.
Ah ouais. Ah ouais. Il y a de la testostérone.
Leïla, Bouba.
Non.
Français?
Ouais.
Morgan Big Flo Yoli.
Non.
C'est magnifique. Wow. Manchao.
Ceux qui voient
le monde. Leïla, Osmo Puccino.
Oui.
Chante la vie et oui, c'est magnifique. Donne l'amour avant que tout se termine.
Avec demi-portion, je vous signale que quand vous avez fait des vannes au début, ils ont dit Puccino. C'est magnifique. Pour l'instant, un point pour Leïla, un point pour Morgan, un point pour Alexis.
J'ai mis Piggy Bisou et j'ai mis Osmo Puccino.
C'est vrai, c'est vrai. Deux pour Leïla, deux pour Daniel, un pour Morgan, un pour Alexis. Tout se joue maintenant.
Voilà.
When love Leïla,
ouais.
Sinatra.
Comes in. Dean Martin.
Oui.
Quand c'est pas l'un, c'est l'autre.
C'est magnifique.
Acapulco.
Acapulco. Victoire de Daniel Morin, mais c'est magnifique. Merci d'accueillir Alice Paul et Clovis Cordon.
Yes.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Bienvenue Alice. Bonjour Clovis.
Bonjour. Bonjour.
C'est bien
bonjour.
Alice Clovis.
C'est rare. Hein,
c'est magnifique, Clovis. J'ai envie de dire. C'est vrai que dans toutes ces propositions faites autour de ces magnifiques, vous avez choisi
la
celle-ci.
La vie est là, qui vous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique.
Mais il y avait tellement de versions Clovis Cornillac que vous avez longtemps hésité avant de prendre celle de Dario Moreno parce que...
Ah non, pas du tout.
Vous avez pris la
Pourquoi
moins chère. La moins chère.
C'est le cynisme dès le départ. On fait un film anti-cynique et direct, c'est la moins chère. Non, pas du tout. Non, c'était pas... Évidemment, c'est pas le premier truc auquel on pense au départ. Non, mais c'était... En fait, j'ai découvert Dario Moreno, je devais avoir 10-11 ans, dans un film que je recommande à tout le monde qui s'appelle Ok Mambo. Réalisé par John Berry avec...
Qui est une chanson d'ailleurs, Ok Mambo.
Ouais. Avec Poiret, Serrault, Carmet, Alberto Sordi, Magali Noël. Un super film, une petite perle. Et ça, franchement, j'ai 10-11 ans, je vois le film, je me marre comme une baleine. Dario Moreno, je découvre, c'est pas ma génération, même si on n'est pas
non,
jeune,
non,
mais
non.
C'est pas la mienne.
Et, c'est pas cynique.
Non, c'est la personne ici qui est concernée.
C'est celui qui a fait le premier Taratata.
C'est pas sympa pour Nagui.
Et du coup, je vois le film où Dario Moreno est très mauvais, c'est pas un bon acteur. Mais alors, il a un charme, il a un truc, ce gars, je découvre. Et dans le film, c'est l'histoire d'un petit banquier un peu grassouillet qui se fait maltraiter par sa femme et qui fait un radio-crochet. Et au moment où il fait le radio-crochet, il se met à chanter du mambo, notamment Ok Mambo, et à danser et tout ça. Et ce mec me fascine, il me dit, il est incroyable, ce mec qui ressemble à rien. Et je suis allé acheter le disque. Pas le disque du film, parce que ça n'y était pas, mais un disque de Dario Moreno, où il y avait C'est magnifique. Et en fait, cette chanson et la version de Dario Moreno, depuis que je suis gamin, ça fait partie de la vie. Ça me fait, voilà.
La BO de la vie, quoi, elle vous accompagne.
Ouais, ça fait partie du truc. Donc, d'où le...
Et puis ça donne le sourire, et bah, c'est ce que l'on retrouve exactement dans le film, c'est-à-dire que ce gamin grandit en écoutant Dario Moreno, quelques autres disques, c'est-à-dire que les deux références qu'il a culturellement, c'est Le Petit Prince et Dario Moreno. En ouverture du film, on le voit totalement amoureux, connaisseur des plantes, des hibiscus en l'occurrence, et il y a son papa qui lui dit, mais enfin, t'es quand même bien le seul à réussir à faire pousser des hibiscus en haut sur la montagne. Et c'est par amour, par, j'ai presque envie de dire, dévotion et passion, qu'il réussit à s'occuper de ses fleurs. Malheureusement, le drame arrive dès le début.
Ouais, mais...
La nature qu'il aime tant ne le lui rend pas, puisque la nature fait partir un peu rapidement son papa et sa maman.
Oui, on peut dire que c'est... C'est un film sur la quête d'identité qui commence par un déracinage.
Oh, joli, c'est bien.
C'est bien, ça marche pour ceux qui verront le film. J'espère que vous serez quelques-uns. Vous comprendrez le jeu de mots.
Voilà.
Donc, il se retrouve... Enfin, il a été éduqué dans la montagne. Et puis surtout...
Dans
il
la
a
nature coupée de la société.
Zéro communication avec la société. Ouais. Et
il n'est pas tout jeune, en plus.
L'un des premiers...
Merci.
Il est adulte.
Je crois qu'elle vous aime pas vraiment.
Vous faites particulièrement jeune dans le film, Clovis, mais le personnage,
ça, c'est le maquillage.
Il a une quarantaine d'années, je crois.
Oui, non, il est plus jeune que moi. Ouais.
Et le premier contact humain, c'est avec vous, Alice Paul. Il a des rapports avec la société, mais sans trop comprendre ce qui va lui arriver. Mais la première personne à qui il va faire confiance, c'est vous.
Oui. Il y a quand même un homme, enfin une femme à qui il va faire confiance. Une femme qu'il rencontre.
Oui, qui va le prendre
sous.
Ouais. Non, en fait, c'est vrai quand il va.
C'est vrai,
dans l'ordre, quand il va arriver, il y a sa confrontation. On essaye de le traiter, avec humour, du burlesque aussi, et tout ça, parce qu'il est. Effectivement, totalement décalé.
J'essaie de faire parler à Alice Paul depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai une petite tentative de.
Ah, pardon. C'était ça.
Bonjour Alice. Comment ça va?
Non, mais il va d'abord rencontrer effectivement quelqu'un qui est un travesti. Et qui. C'est un peu les gens en marge, en fait. Il y a un travesti, une prostituée, tout ça dans un petit bar et tout. Et souvent, on s'entraide un peu plus quand on est en marge.
Bah,
et,
elle aussi.
Et quand il rencontre effectivement Alice. Le personnage d'Alice, qui elle sort des services sociaux à ce moment-là, on va dire,
pas de mauvaise humeur.
Oui,
c'est affecté, ouais, contrarié.
Contrarié.
Très contrarié.
Et effectivement, les deux se rencontrent, ces deux perdus, quoi, ouais, à ce moment-là.
Et même limite rejetés par le système, par la société, ils savent pas où ils en sont ni ce qu'ils peuvent faire pour rentrer dans le jeu.
Oui, c'est ça. Elle se sent exclue. Elle a fait une bêtise et à partir de... Oui, alors là, pardon. Ouais,
j'ai dit que excuse, on est bien là.
C'était bien de prendre la parole, Alice. Ouais. J'ai excuse.
Merci, c'était Alice. C'est tout pour elle.
Mais ça veut dire qu'en ce moment, elle vit des beaux moments.
Tu m'étonnes qu'elle est à part. Hein. Finalement, c'est bien quand vous parlez, Clovis. C'est bien.
Donc heureusement qu'on est vendredi, Alice.
Oui, bien sûr. De la Toussaint.
C'est ça.
Noël.
Joyeux Noël.
Voilà. Donc elle est exclue.
Oui, elle s'est exclue elle-même en faisant une très grosse bêtise. Et après. Bah,
elle a cédé au démon de l'alcool, ça.
Elle a cédé au démon de l'alcool. Elle a perdu la garde de sa fille. Et à partir de là, elle est dans une lutte pour refaire partie de la société, montrer qu'elle en fait partie, juste pour récupérer sa petite fille.
Et puis cette société, elle a un système. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté je veux faire partie de la société, mais la société, elle doit vous accepter aussi. En l'occurrence, pas d'identité, vous n'existez pas, on ne vous trouve pas sur ordinateur.
Cette phrase, elle est terrible.
Ouais. Elle est violente.
Moi, ça me rappelle mon premier rendez-vous à la NPE.
Vous n'existiez pas ?
En fait, oui, il y avait un truc comme ça, parce que je n'étais ni intermittente, ni régime général. Donc en fait, la dame me dit, en fait, il y a rien, quoi. Il y a pas de dossier.
C'est pas où vous mettre.
Je sais pas où vous. Ouais, exactement. Je sais pas où. Et c'est vrai que c'est une drôle de phrase. Ouais.
Alors c'est justement la situation dans laquelle se trouvent vos personnages et se retrouvent donc en se disant ils ne décident pas d'ailleurs de s'accompagner l'un l'autre mutuellement pour progresser, mais en tout cas la vie va le faire. Est-ce que c'est un il y a beaucoup de poésie dans ce film et il y a un côté conte, et en même temps c'est une comédie, il y a des moments extrêmement drôles, il y a d'ailleurs, je pense, pour avoir vu ce film dans une salle avec des enfants, je pense qu'il y a une double lecture, il y a des vannes que les parents et que les adultes peuvent comprendre et à côté desquels les enfants peuvent passer. Puis il y a des moments de pur bonheur comme dans un film à la Capra où on est pris, où on est saisi, on est ému, on sourit, on pleure.
En tous les cas, la volonté au départ, ou l'envie, l'ambition, je ne sais pas comment on pourrait dire, le désir de faire ce film, c'était vraiment de faire un film qui aurait pour toile de fond la bienveillance, ce qui est un peu à l'encontre de
l'air du temps.
C'est pas super à la mode, mais et en même temps,
si c'est super à la mode dans le discours, pas forcément dans les faits. Voilà.
Dans le discours aussi,
les gens revendiquent la bienveillance.
Bah, c'est pas trop tôt, sans hésiter,
sans forcément la mettre en place.
C'est pour ça, arrêtons. N'en parlons plus. Ça sert à rien.
Non, mais le personnage de Pierre, c'est la bienveillance incarnée.
Oui, enfin, donc il y avait cette idée d'attaquer ce type de sujet au cinéma. En même temps, sans donner des leçons, sans être dogmatique, j'ai pas cette place-là, je me sens pas du tout légitime pour dire comment il faut vivre, comment il faut être, mais en revanche, d'essayer d'offrir du cinéma, c'est-à-dire pourquoi on se déplace, on achète un billet, et pourquoi on reste pas devant sa télé comme beaucoup.
Ça, c'est le côté spectaculaire que vous vouliez rajouter, je pense à la grotte qui est totalement dingue de fleurs, parce que c'est un passionné de fleurs, un passionné d'abeilles, de miel, il travaille, il est en rapport avec la nature, il s'appelle Feuillebois en plus, c'est-à-dire que le mec il est totalement connecté à la nature.
Il y a cette idée-là, mais il y a cette idée aussi de, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand on est
dans... Je sais pas ce que vous allez dire, je suis d'accord d'avance.
Non, mais dans une salle quand tu regardes, enfin moi quand je suis devant un film, parce que avant d'être réalisateur je suis public, quoi, et j'aime bien ne pas savoir ce qui va se passer à la séquence d'après.
Puis ce qui est fort aussi dans ce film, c'est que c'est pas uniquement l'histoire de ce personnage, Pierre, c'est-à-dire qu'il y a les autres personnages en périphérie, tous connectés, interconnectés, oui, comme dans la vie, comme dans la société, mais on les suit et on s'attache à l'histoire des uns et des autres aussi dans leur rapport à la société.
C'est un petit côté Candide, en fait. C'est les aventures de Candide, cette naïveté incarnée, cette gentillesse, voilà, et qui croise des gens autour de lui, parce que finalement, l'intérêt de voir ce personnage être mis en scène dans la société qu'il n'a jamais rencontré, c'est de voir comment il est en décalage. C'est une façon de faire un portrait en creux de qui on est, de ce qu'on vit, de nos défauts.
Faux,
aussi, et de le personnage d'Alice est complètement surpris dans cette rencontre, parce que tout d'un coup, elle a quelqu'un qui lui tend la main. Ne serait-ce que ça. Symboliquement, on est déjà sur une façon...
De... Sans calcul, sans intérêt.
C'est aussi ça, j'imagine, l'ambition du film, c'est de raconter...
Voilà, mais sans... Voilà,
sans le son.
C'est-à-dire que...
Merci Alice. Il était bien, ce oui était bien, bien placé au bon endroit.
Et totalement suffisant.
Non, mais là, silence et d'or, paf, en radio surtout.
On va faire un mime maintenant.
Alors. On va surtout continuer d'en parler de ce film qui nous a touchés, émus et qui fait du bien et qui sort enfin, j'ai envie de dire, parce qu'il a quoi ? Il a un an, deux ans ce film ?
13
ans.
De 76. C'était la sécheresse et je me souviens, c'était compliqué.
Juste après Rabbi Jacob.
Ça sort donc le 1er juin au cinéma avec Alice Paul et Clovis Cornillac jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, on a Morgane Cagnon qui ne vous aime pas du tout. Et comment ne pas les aimer, ces deux-là ?
C'est une thème.
Alice Clovis au pays des merveilles. Non,
bon. Non.
Bah, je sais pas, je croyais qu'on cherchait nos origines. Quel thème fascinant. La semaine dernière, Guillermo en a parlé dans sa chronique de la recherche des origines. On a appris notamment qu'il était descendant de boulanger. Et ça explique pas mal de choses, notamment pourquoi il a constamment un peu de farine sous le nez, sur le menton, le lundi matin. Dans votre film, Clovis, Pierre découvre qu'il a été adopté et il part à l'aventure pour se chercher, mais plus besoin. Maintenant, il y a les tests ADN qui sont pour moi, après la méritocratie et les yaourtières, la plus grosse enfume de ce siècle. Histoire vraie d'un fou rire et d'une dérive de test. J'ai un pote camerounais qui m'a annoncé fièrement qu'il était 20% suédois. Le gars s'appelle...
Non mais attends, mais t'as pas le droit de rire.
Si, le gars s'appelle Suleiman. Donc les 20% suédois, c'est juste parce qu'il conduit une Volvo, quoi. Non mais les gens ça prouve rien. Les gens se justifient comme ça pour n'importe quoi. En plus, ah non mais je suis hyper impulsive moi, mais c'est normal, je suis 9% algérienne. Non Bénédicte, tu es en revanche 100% raciste et je ne vois pas la présence d'un drapeau algérien sur ton balcon. Donc algérienne vraiment, j'en doute. De toute façon, on est tous un peu des enfants du monde en fait. Hein. C'est la terre notre origine, notre vraie mère c'est la planète. Et j'ai aucune idée de ce que je raconte. Je cite des paroles au hasard de la discographie d'Yannick Noir. Sauf que à l'inverse. À l'inverse de mon pote Soleiman, votre personnage dans le film Clovis, il se décolore au fur et à mesure qu'il progresse dans son enquête et qu'il se heurte au monde, il devient noir et blanc, tout simplement. Vous voyez le teint qu'on a le dimanche matin, après un samedi soir, à se dire, allez, un petit verre dans le quartier et dodo, puis après tu finis par faire des roues arrière en vélib devant l'Elysée en criant, oh Manu, tu descends. Bah le teint de peau de ce lendemain de soirée-là, la peau un peu Benjamin Biolesque. Au début, il devient sépia. Jean-Pierre Jeunet a adoré cette partie du film. Il a dit tout le reste bof, mais la partie en jaune pâle, moi j'adore. Dommage, ça manque de nain, quoi. Puis bah voilà. De là, pour terminer la blague, j'ai tapé nain célèbre dans Google. Et ben, samedi après-midi, mais foutu en l'air, quoi. De clic en clic, je me suis refait toute la première saison de Game of Thrones, la deuxième de Joséphine Ange Gardien, quoi. Après, il devient noir et blanc, puis translucide, Paul Mirabel à la plage. Bon, c'est pas gentil. C'est pas gentil, il est pas là. Il est pas là en plus, mais des blagues sur des gens palo à la plage, c'est compliqué. J'y peux rien si cette émission s'est présentée par. Puis là, pour terminer cette blague, j'ai tapé groupe de rails célèbres dans Google, un samedi soir foutu en l'air, aller chanter Aïcha en roue arrière devant la maison.
Mais
bref,
oui.
Puis je me suis réveillée dimanche matin, métaphoriquement, au premier rang d'un concert de Benjamin Biolay. J'ai relu ce papier et j'ai demandé à mon assistant personnel, dit Siri, à partir de quand une chronique est raciste? Et Siri m'a répondu, meuf, depuis hier soir, je te dis que je m'appelle François. Et c'est honnêtement raciste depuis la première blague sur Soleiman. Du coup, je vais m'arrêter là. Je vous ai même pas parlé de mes origines, ni de mes parents qui sont bien mes parents biologiques, apparemment. Même si plus je vois des images de Monica Bellucci, plus je me dis, franchement, elle m'a eu jeune, mais quand même, c'est évident.
Merci, Morgane.
Sous ce climat, les
ça t'intéresse pas de savoir que Morgane, le vendredi et samedi, sera à Rennes, en Bacchus?
C'est pour ça, je dis que c'est magnifique.
C'est magnifique.
Faut attendre de voir.
Alice Paul, votre personnage, vous la qualifierez de révolté, de désespéré, d'abandonné par la société?
De trop à part. Elle a plus les codes pour faire partie du monde et de la société. Et à son contact, l'espoir renaît et elle a à nouveau envie d'en faire partie.
Et puis surtout, comme lui n'a pas du tout, n'a aucun code, c'est même pas comment fonctionne une télévision, parce qu'on va en parler de la télévision, qui est aussi un détonateur dans la recherche, avec un jeu qui aurait pu être le qui est qui, mais qui est le qui est de vous.
Que tu présentes, enfin que Nagui présente.
C'est un personnage, voilà. tout ça est inventé.
Ben oui.
Mais de tomber comme ça sur ce gimmick avec qui êtes-vous, devine qui situé, c'est le jeu du post-it aussi qu'on met sur le front avec est-ce que je suis quelqu'un de connu, mort, vivant et ainsi de suite, ce genre de gimmick que l'on peut faire en société. Lui découvre vraiment la vie, l'argent, le système bancaire, il est totalement perdu. Elle, il y a un petit moment au début, on se dit mais de quel côté elle va basculer ? Est-ce qu'elle va s'en servir de cette naïveté-là ? Et en fait, justement, elle va non plus découvrir la naïveté, mais la simplicité. C'est ça qui va l'attirer.
Oui, et puis elle est presque irritée au début de découvrir à quel point il est différent. C'est-à-dire quand il lui tend de l'argent et que c'est un argent démesuré et que lui ne sait pas du tout ce que ça représente, personne n'a jamais fait ça dans la vie sur la Terre, elle le sait, quoi. Donc il y a un moment elle ne peut pas y croire, en fait.
Justement, quelqu'un donne, un homme donne à une femme de l'argent comme ça en liquide pour lui dire merci.
Il y a un doute.
Et à partir de là, il y a plusieurs pistes qui sont, qu'est-ce qu'il me veut ? Deux, je vais en profiter parce qu'il n'a vraiment pas compris la valeur de l'argent. Trois, il est trop gentil, je ne peux pas laisser comme ça, il va se faire détruire par le système. C'est-à-dire que c'est toutes les
routes. Pas survivre dans la société comme ça, c'est bien
ça.
Sûr.
C'est oui, ça.
Après, les choses se font, elles se constituent. C'est pour ça que c'est toujours sur un fil, c'est-à-dire que personne n'est parfait dans son attitude. Mmh. Elle n'a pas l'attitude parfaite en vrai.
Ben
c'est-à-dire que elle est dans lui non plus. Hein. C'est-à-dire que c'est un rapport. Il comprend pas bien, il donne parce que il y a rien de spécial à donner de l'argent. De toute façon, il en connaît pas vraiment la valeur.
Ouais.
Déjà, il peut pas s'acheter un pain au chocolat avec un chèque, donc c'est un vrai problème. Donc derrière, elle le sauve, donc il lui donne puisqu'elle a besoin d'argent. Il a entendu qu'elle avait besoin d'argent, donc il donne de l'argent. Elle, je trouve que dans cette position-là, en fait, c'était aussi de mettre quelqu'un comme nous, c'est-à-dire vraiment dans la société, vraiment face à quelque chose qui est totalement incohérent, mais où effectivement, dans le côté... elle prend la thune, quand même. Hein. Le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle la garde, la thune. Après, il y a une sorte de culpabilité immédiate en disant, non, attendez, vous savez ce que ça représente, tout ça ? Non, il ne sait pas ce que ça représente. Et donc, il y a une sorte de... Elle est cueillie. Et derrière, il lui dit, moi je veux bien qu'on me paye, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose. C'est-à-dire, je peux faire un truc pour vous. Et effectivement, il y a une ambiguïté.
Qu'est-ce que vous voulez de moi ou qu'est-ce que vous attendez de moi ?
Et dans l'ambiguïté, parce qu'il y a une ambiguïté qui se crée qu'on ne va pas raconter, mais il dit, j'aurais besoin d'un truc. Et à partir de ce moment-là, elle se dit, ça y est, je retourne dans mon monde.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est reparti.
Et les quiproquos sont une source de comédie aussi dans le film, puisqu'il y a la quête, encore une fois, de ses racines, de ses origines, d'essayer de trouver. Il se trouve que sa maman s'appelle Madame Fontaine. À partir de là aussi, arrivent quelques situations ambiguës et quelques jeux de mots délicieux. Et puis, il y a, comme l'a dit aussi Morgane, et ça peut être un point de vue, la couleur de la peau.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a aussi ce message à faire passer sur le racisme ou la couleur de la peau? Il perd ses couleurs.
Voilà. Il y a des triples. C'est compliqué parce que en fait, je veux tellement pas être didactique dans la manière d'en parler, mais effectivement, ça parle de l'exclusion, ça parle de comment on est regardé, ça parle de ces choses-là. En même temps, l'histoire des couleurs, elle est évidemment sociétale, on le sait, mais on s'en amuse. Et en même temps, c'est pour moi, une histoire de la photo. Ce qui est choisi par rapport à ça, c'est aussi l'histoire de la photographie, donc du cinéma. Donc il y a quelque chose.
On va simplement préciser une chose, c'est qu'au fur et à mesure qu'il vit des émotions qui le choquent, qui le bouleversent, il en perd son teint.
Il change d'aspect. Ouais.
Et il passe de jaune à noir et blanc pour enfin disparaître, comme l'a expliqué tout à l'heure Morgane Cadignan.
Comme le passe-muraille, c'est-à-dire traverser tout d'un coup les.
Oui, mais ce sont les chocs émotionnels.
Mais un côté rose pourpre du Caire où il disparaît au fur et à mesure.
J'ai fait 70 villes à présenter le film là, à travers la France. Ce qui est la très bonne nouvelle, c'est que les gens sont très heureux en sortant du film. Donc ça, c'est évidemment très gratifiant et c'est agréable pour nous tous de se dire que tu fais un film qui a la bienveillance avec des gens qui, à la fin, disent « Ah, merci, je me sens bien ». Bon, tu fais « ça me fait du bien ». Ça, c'est très agréable. Mais ce qui revient tout le temps,
vrai sentiment,
c'est ça fait penser, effectivement, pour les gens, à Amélie Poulain, peut-être à cause du jaune. Ça fait penser à Amélie Poulain, Forrest Gump, on me dit des choses, Tim Burton, des références.
Le côté, il n'y a pas de référence à l'argent, c'est un côté Bernie du
Pontel. Oui, exactement. Oui.
Et super références.
Mais que des références où tu fais...
On peut même aller jusqu'à Brisonis, où votre personnage était aussi un peu naïf dans...
Oui, ça pourrait...
Non, mais pour ramener à quelque chose que vous avez déjà joué.
Ça, c'est... Là, ce que je dis, c'est ce que les gens disent. Ils n'ont pas parlé de Brice, mais les gens disent ça. Et en fait, je trouve que c'est l'argument le plus simple pour dire... si vous avez aimé ce type de film-là, il n'est pas impossible. C'est vrai que c'est un cousin. Je pense C'est Magnifique est un cousin de ces films-là. Si vous avez aimé ces films-là, il est possible vraiment que vous aimiez C'est Magnifique. En revanche, si vous êtes réfractaire à cette typologie de films, il ne faut pas y aller. Parce que je pense que...
J'ai rarement vu une promo comme ça.
Mais non, c'est clair, vous avez raison.
Non, parce que c'est un cauchemar.
On a du mal avec l'honnêteté.
Non, mais c'est un cauchemar. Il y a des gens qui n'aiment pas les films d'horreur. Tu dis, il y a des films d'horreur sublimes. Moi, Morse, c'est un chef-d'œuvre. Je ne vais pas dire à ma mère, vois Morse. Elle déteste ce type de film, même si c'est un chef-d'œuvre.
Puisque vous parlez de la famille, elle est très présente. Évidemment, c'est le sujet du film, la quête de la parentalité, le rapport, les liens. Mais elle est très présente aussi dans le casting, parce que maman est dans le film, votre épouse est dans le film, les enfants sont dans le film, c'est vraiment une ode à la famille. Ou c'était un problème de budget.
Vous avez l'air surpris.
Oui, parce que en fait, non, mais je suis surpris parce que c'est ce qui m'est arrivé très concrètement. Moi, je suis un peu un malade mental quand je fais un film, c'est-à-dire que je ne pense qu'au film, je ne pense que à ce que. Ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'on va au cinéma, qu'est-ce qui fait que... Et alors, il y a un truc que je déteste, c'est le côté c'était génial, c'est un film de potes, c'est un film de famille, tout ça. Je dis, mais moi, je vais pas payer un billet, les gars, pour vous voir en famille, je m'en fous. Ce que je veux, c'est voir un film.
Bon, et il se trouve que votre maman a été actrice avant que vous le soyez acteur, donc ça
exact.
Va.
Et c'est pas ça, en fait. C'est,
c'est vrai.
Non, mais c'est qu'au départ, moi, je devais pas jouer dedans. Donc, moi, je fais jamais des films pour jouer dedans. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire... j'ai le scénario, je dis voilà, ça y est, le film il est là. Je commence le casting, je pense à Alice très rapidement pour plein de raisons, je pense qu'on est tous d'accord quand on regarde le film, elle est à la place merveilleuse là où elle doit être. Je trouve qu'elle, voilà, il y a une nouvelle Alice pour moi, mais pas qu'elle n'était pas bien avant, elle était formidable, mais elle a creusé un sillon, puis là elle en creuse un autre, et je trouve qu'elle est magnifique et qu'il y a ce glamour et cette proximité qui est formidable pour le cinéma.
C'est vrai, quand elle a un texte écrit, elle est bien.
Et puis derrière,
c'est dégueulasse,
je cherche le personnage de Félicie. Et le personnage de Félicie, je me dis, il me faut une actrice de la génération de Myriam qui ait le charisme, la force travail et cette capacité à jouer ce type de personnage vraiment au premier degré en étant vraiment dedans. C'est un fil, hein, ces personnages-là. Et je me dis, effectivement, mais c'est Myriam qu'il faut. Je lui propose le rôle, elle accepte le rôle. Derrière, je me dis, bon, ben, formidable. Je commence à créer mon petit...
Votre petit monde.
Voilà. Et puis...
Au-delà de la structure du casting, l'élément important, c'est vous ne deviez pas le faire. Qui devait le faire ?
Je le dis pas. Alors, je le dis pas parce que je pense que ça aurait été mieux. Et que je veux pas me tirer une balle. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je le dis pas pour une seule et bonne raison. C'est que je sais pas si ça vous fait ça, mais de temps en temps dans l'histoire du cinéma, quand tu regardes des films où on te dit c'était machin qui devait le jouer, puis finalement tu le regardes avec truc, tu regardes le film en disant et si ça avait été machin, est-ce que ça aurait été mieux, moins bien. Donc
comme Daniel Auteuil pour Intouchable à la place de François Cluzet.
Par exemple, quand on le sait après, je me dis après.
Non, j'ai dit une bêtise.
C'est pas la première fois.
Non, mais je crois qu'il ne pouvait pas pour des raisons de planning.
Mais non, mais c'est Daniel Auteuil qui l'a joué surtout. C'est là où tu te trompes. Mais je sais que c'est Cluzet.
Qu'est-ce qui se passe ? Dans quel monde je suis-je ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je dirais après, sans problème, parce que c'était des supers idées. Donc, donc ça se constitue.
Donc ce choix par défaut, vous prenez le rôle. C'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes au taquet, vous n'avez plus le temps de chercher quelqu'un d'autre. Il faut le faire.
Non.
Ou
en fait,
vous dites bon bah j'y vais.
Non. En fait, il y a un moment où le cinéma, c'est le 7e art et tout ça, puis c'est aussi une industrie. Et dans l'industrie du cinéma, les partenaires financiers et tout ça, ils ont besoin aussi d'être assurés à des endroits. Donc il leur fallait
avec
quelqu'un.
Avec des têtes d'affiche,
Quelqu'un de référencé pour eux et tout ça. Et donc, les deux personnes à qui j'avais pensé à un moment, pour des questions de calendrier, des choses très douces d'ailleurs qui m'ont dit, qui n'ont pas fait le rôle, à un moment, j'avais pas de certitude, je ne voyais plus. Et là, c'est mes partenaires, mes producteurs, qui m'ont dit « Mais pour nous, ça a toujours été toi. » À partir de ce moment-là, je fais, alors, bon, attendez les gars, je prends une semaine, je me pose et je
vais lis. Le relire différemment.
Il y a quelqu'un qui ne savait pas.
Ouais, non, mais je le lis en me disant, je pense à un réalisateur ou une réalisatrice que j'aime, qui me propose ça. Qui me propose ce rôle-là, est-ce que j'y vois...
Pour vous détacher totalement du projet.
Ouais, quoi. Okay. Et pour, voilà, pour savoir, est-ce que j'irai, est-ce que j'irai pas.
Et, pardon, moment, et à l'inverse, vous n'êtes pas demandé si vous alliez jouer le rôle en donnant la réalisation à quelqu'un d'autre?
Ah non.
Ah pardon, excusez-moi.
Ah bah non. Alors là, il y a un endroit où je suis un chien, c'est ça.
D'accord. Jero avec Life, ça fait également partie de la bande originale de ce film. On va parler de la musique qui est dans le film, mais aussi de la musique qui est dans votre vie. Et puis on va accueillir tout à l'heure Jean-Pierre Bourly, qui est secrétaire général du CNAOP, c'est-à-dire le Conseil National pour l'accès aux origines personnelles. Ça fait partie aussi de l'un de ces sujets de ce film, qui est un conte, mais qui est surtout une comédie, et qui fait en effet du bien, comme Florence Mendez.
Salut tout le monde. Alors peut-être avez-vous vu passer l'info, hein, l'actrice Andrea Furet deviendra la première candidate transgenre à se présenter au concours Miss France. Alors elle doit d'abord remporter l'élection de Miss Paris, mais si elle parvient à se qualifier pour la finale, j'espère qu'il y aura un défibrillateur à proximité quand Geneviève de Fontenay apprendra la nouvelle et qu'il sera en panne. Moi je trouve ça super, ce concours manque de femmes engagées, on devrait plutôt y récompenser de grandes militantes comme par exemple Rosa Parks. Enfin, si Rosa Parks avait été élue Miss France, l'histoire n'aurait pas été la même vu qu'elle aurait gagné la voiture. Mais revenons-en à mon sujet de base, la transidentité. Alors, je pourrais bien sûr pas être exhaustive sur le sujet, hein. 3 ou 4 minutes, c'est bien trop court, comme je le disais encore hier soir. Le premier point important est la différence entre la notion de sexe et celle de genre. Le sexe est défini par les caractéristiques propres aux individus mâles ou femelles, chez les femmes utérus, ovaires, clitoris, chez les hommes pénis, testicules ou encore lâcheté. Jusqu'ici, rien de très compliqué si l'on s'en réfère au sexe uniquement. Les femmes ont un vagin et les pénis ont un homme. Le genre, lui, rassemble les comportements, rôles et statuts supposés appropriés pour une personne en fonction de son sexe, auquel s'identifient ou non les individus. Les personnes cisgenres dans le premier cas, les personnes transgenres dans le second. Pour résumer, disons que quand tu fais tes courses au supermarché dans un village naturiste, on voit pas ton genre pendouillé. Parfois, certains ne s'identifient ni à l'un ni à l'autre, ou aux deux. Parfois, pour d'autres personnes, cela peut même varier. On les appelle les personnes non-binaires et les gender fluides. Rien à voir avec les fluides, hein. Le genre, contrairement au sexe, ça ne laisse pas de traces. Il existe donc des garçons avec un vagin et des filles avec un pénis. Alors, de même, vous pouvez être un homme cisgenre, mais avoir envie de changer de sexe. Ce qui explique pourquoi dans votre boîte mail, il y a tant de messages qui vous proposent des solutions pour agrandir votre pénis. Alors, je fais une parenthèse, mais ça me fait penser qu'il y a peu de temps, l'influenceuse Sarah Frézou proposait à ses abonnés de donner plus de plaisir à leur mari en utilisant des capsules pour resserrer leur vagin. Alors je dis ça, je dis rien, mais à un moment, si les mecs continuent de se faire élargir la bite pendant que de leur côté, les meufs se resserrent la chenette, on va avoir un problème. Là, on l'apprend quand même depuis la maternelle que le gros cylindre, il rentre pas dans le tout petit triangle. Non mais vous rigolez, mais Frézou, en 15 ans, tu vas voir, elle va nous niquer l'espèce. Hein. Bon, important de préciser également, le genre n'a pas de rapport avec l'orientation sexuelle. On peut être transgenre et hétéro ou cisgenre et gay. Voilà, transidentité ne rime pas avec homosexualité. Enfin si, ça rime, mais c'est pas le propos. Toutes les combinaisons sont possibles, hein, un peu comme la NUPES finalement. Alors évidemment, il y a bien sûr des gens avec beaucoup trop de temps libre, hein, qui refusent le principe de transidentité. Leur argument principal, c'est que c'est contre nature. En revanche, quand la nature offre à Jean-Michel Transob une jolie calvitie, c'est le premier à foncer dans une clinique en Turquie. Non mais sérieux, ils ont peur de quoi les transphobes? La phobie des serpents, je peux comprendre, mais en quoi une femme transgenre, ça les fait flipper? Ils ont peur quoi? Qu'elle sorte son pénis pour l'enrouler autour de leur cou afin de les étouffer fait comme un boa constrictor. Alors je sais pas si vous vous rappelez de tout ce cirque autour de la théorie du genre, soi-disant présente dans les manuels scolaires. Mon cul, ouais, en tant qu'ancien prof d'anglais, je peux te le dire, il n'y a pas plus sexiste qu'un manuel scolaire. « Mommy is in the kitchen and daddy is devant la télé avec une bière en se faisant sucer. » Et là, les gens me demandent « Mais si maman est dans la cuisine, qui suce papa ?» Pas avant le dîner, chérie, après les enfants n'ont plus faim. Bon, vous l'aurez compris, bon baiser de Belgique. Vous l'aurez compris, la personne transgenre a l'impression qu'elle est dans le mauvais corps. Une sensation d'être dans le mauvais corps qui n'a visiblement jamais traversé mon ex quand il s'est tapé ma sœur. Alors pour terminer, en tant que fan de la première heure de la saga Harry Potter au point que ça en est même un peu gênant, vous imaginez bien que ça a été dur pour moi de découvrir que son autrice, J.K. Rowling, apporte régulièrement son soutien au mouvement TERF, cette branche du féminisme radical très transphobe. Alors un peu, alors J.K. Rowling, les mots, les derniers mots de cette chronique seront pour vous. Vous avez aidé un petit garçon à sortir d'un placard. Ne forcez pas tous les autres à y rester.
Merci Florence Mendez.
Florence, ce soir en métropole à Paris et le 2 juin à Lausanne et le 11 à Mimizan.
La vie est là qui vous prend par le bras. Oh là là là. C'est magnifique.
Et c'est le 1er juin au cinéma avec Alice Paul et Clovis Cormier qui sont nos invités. J'ai pas, et j'ai eu tort d'ailleurs, cité le reste du casting autour de vous. On l'a évoqué avec la présence de Myriam Boyer et de Lilou Fogli. Il y a également Manon Lemoine, Laurent Bateau qu'on a envie de gifler tellement il joue bien le personnage qu'on a envie de gifler. Anne Benoît aussi, qu'on aime d'amour. Gilles Privat, Alexandra Roth. Et puis beaucoup d'enfants présents. J'ai pas toute la liste disponible. On garde cette, l'intimité des enfants. Vous avez vu, regarde avec moi, t'es pas obligé. Enfin, il y a des enfants, en tout cas, qui jouent extrêmement bien dans ce film et que l'on embrasse. C'est la tête qui m'a fait Covid, je vais absolument pas y aller là-dessus. Allons-y, jouons, enfin, jouons, écoutons plutôt, jouons les
jouons,
musiques.
Oui,
ouais, jouons les musiques de Renaud, par exemple.
Allez.
Tiens, Alice, vous écoutiez en 97, 98.
Que viva Marijuana.
Qu'est-ce qu'elle évoque cette musique pour vous? Adios Zapata.
Cette époque et toutes les époques, depuis que l'album est sorti, je suis une très grande fan de Renaud, je crois que
là,
je vous l'ai dit.
Là, vous êtes à Marseille ?
Et là, je suis à Marseille. Je commence les premiers cours de théâtre en bas de la Canebière, au Badaboum Théâtre. Voilà, sur le vieux port.
Bien-nommé.
D'où tout ça.
ça
bien-nommé Badaboum Théâtre. Et voilà, et je découvre cette nouvelle vie et je me dis, bah. Peut-être que là, c'est mieux qu'ailleurs, quand même.
Ouais, parce que l'école, c'est pas forcément la grande passion.
Ouais, non, c'est le rejet total, mais rien que d'y penser, rien que le mot.
Comment vous l'expliquez que ça soit...
C'est dès le premier jour, il y a eu un spectacle de marionnettes, je trouvais ça un peu naze. Après, on nous a forcé à faire la sieste, j'avais pas sommeil. Je sais pas, ça a jamais fonctionné. Je crois que j'ai un petit problème avec
c'est
le groupe
bête,
aussi.
Mais
non, mais
c'est ça s'est joué à pas grand chose.
Ah ouais, ça s'est joué à pas grand chose et c'est resté.
C'est
ça.
C'est une école pas mal où tu fais la sieste et t'as des marionnettes.
Ouais, c'est maternel, mais après, c'est.
Vous savez, il y a pire, Alice, à l'école.
Oui,
c'est vrai qu'on la regrette, la sieste des années plus tard.
La vie, c'est un peu plein de contraintes aussi, finalement.
C'est vrai, mais je ne vous cache pas que ça me déplaît par moments aussi.
En tout cas, vous vous inscrivez à des cours de théâtre et vous racontez comment vous allez passer des castings en douce.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est j'ai déjà 16 ans, 17 ans. Et je me dis, bon, bah, pour arriver à partir à Paris, il faut que j'ai quelque chose de palpable, il faut que j'ai un agent. Alors ce qui était super, c'est qu'à chaque fois que je réussissais la moindre figuration, j'avais l'impression que l'Amérique s'ouvrait à moi. Quoi.
Ouais, c'est
j'étais très, très positive, très naïve, un peu comme ton personnage. Mais c'est bien parce que ça m'aidait à survivre. C'est-à-dire qu'on pouvait me dire n'importe quoi, vous êtes passé ici, vous êtes trop ça, vous êtes machin. Je dis, ah bah ouais, bah, je comprends. Et puis voilà, et je repartais.
Au point que votre père a cru que vous étiez en.
Oui,
découvert.
J'avais un compte jeune, j'avais 16 ans, 17 ans, puis je sais pas, il reçoit le relevé. Bon, je savais même pas qu'il y avait des relevés. Et puis il a dit à ma mère, je crois qu'Alice se drogue. Elle a dépensé, je sais pas combien, j'avais pris un billet de train, quoi, pour faire l'aller-retour en cachette, bien sûr. C'était d'une organisation, mais vous n'imaginez pas.
Et pourquoi ne pas le dire ?
Bah parce que comment tu veux dire que tu viens pas de là ? Ah oui, alors je vous ai pas dit, je vais être comédienne, bah parce que c'est une évidence.
Non, hein, et puis les parents ont peur pour une jeune fille, le fait d'être une jeune fille versus un garçon, ça peut changer.
Je pense qu'ils auraient eu peur de toute façon, et ils auraient eu raison. C'est pas facile d'arriver dans une capitale comme ça. C'est difficile, franchement, si j'avais à le refaire par moment. Je me fais très souvent le chemin quand je suis invitée comme ça pour parler d'un film, quand je tourne, et que c'est merveilleux, c'était mon rêve d'enfant, mais je me dis s'il fallait que je refasse tout ça, là.
Il y a eu des moments où vous avez eu peur ? Vous avez été inquiète du comportement de certaines personnes dans ce métier ?
Alors, pas plus dans ce métier que dans le reste. J'ai fait beaucoup de petits boulots où c'était pas moins serveuse, tout ça. Franchement, c'est pas des métiers où on est tout
bien
le temps facilement
en
respecté.
Ouais.
Ça peut être difficile, oui.
D'accord.
Mais voilà.
Vous écoutiez pas plus que dans un autre métier ?
Non, pas plus ce métier-là, pas plus que les autres, je crois.
Clovis Cormillac, dans ces années, on est, je le rappelle, en 97-98, vous écoutiez évidemment...
Oh.
Enfin, évidemment,
ouais.
La version rock,
Cake.
That Will Survive by Cake.
Et on vous retrouve dans Carnaval, Clovis. C'est un premier long métrage de Thomas Vincent.
Ouais,
c'est une fable aussi.
Et ouais, vous êtes en duo avec Sylvie Testu.
Ouais, c'est, non mais c'était un bon souvenir. Et puis là, l'album de Cake, je le découvre à ce moment-là. Donc je pense que ça ne doit pas être très vieux. Ça doit être, à mon avis, il a dû sortir là. Et moi, c'est étonnant parce que c'est... Alors Thomas Vincent, on se connaît depuis des années. Il fait son premier long métrage.
Vous êtes nommé au César
pour oui, ce... ça c'est plus anecdotique. Mais en revanche, à tourner... c'était un moment assez étonnant parce que moi, le cinéma, j'avais commencé en 84 et pendant 5 ans, 6 ans, ça avait été un peu là et puis ça m'a jeté complètement. Ils m'ont jeté et après, j'étais au théâtre, j'étais très heureux. Hein,
c'est
et
qui ils m'ont jeté c'est
bah, le milieu, ouais, ouais. Il y a un moment, tu leur plais pas, c'est comme ça, c'est pas grave, mais c'est une réalité. Puis je m'étais dit, le cinéma, c'est fini. Et j'avais la chance d'être au théâtre, et puis la télévision, enfin, tout allait bien, mais je fais ce film de Thomas, donc des années après. Et en fait, de ce film-là, de nouveau, le cinéma est devenu, était curieux de ce que je pouvais amener. Donc, c'est un petit moment.
Vous parlez du cinéma comme si c'était une entité. Le cinéma m'accepte, le cinéma me refuse.
Bah, oui, parce que quand t'as été exposé, quand tu l'es pas, c'est autre chose. Mmh. Mais quand, avec Hors-la-Loi, c'était le film le plus cher du cinéma français à l'époque. Donc, j'ai été exposé avec tous mes petits camarades d'un coup. Très fort. Et on a tous une autre chance à ce moment-là. C'est-à-dire, vraiment, c'était à la mode, quoi. Et du coup, tu te dis, ta chance, tu l'as. J'ai fait quelques films derrière, qui n'ont pas forcément cartonné. Du coup, il y a un moment où on se dit, ah, ça prend pas. Bah, il dégage, quoi. Il y en a plein, chaque année, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu.
Il dégage en chat noir, c'est-à-dire, dès qu'il est dans un film, ça marche pas.
T'intéresses plus, t'es plus sexy, il y a un truc qui est. Tu dis, ah, ben voilà, ça stagne.
On passe à côté de la chance. De la main tendue, en tout cas.
Et puis, en plus, c'est tombé à un moment où. Et je comprends très bien, c'est-à-dire que le cinéma français aussi, à ce moment-là, je correspondais pas beaucoup à ces projets-là. Je veux dire, j'intéressais pas Carax, j'intéressais pas Desplechin, j'intéressais pas, je sais pas, Téchiné, tous ces gens. Et je correspondais pas à leur cinéma. Et donc, je comprends
que des noms dont vous rêviez.
Ben, c'était eux, c'est des cinéastes.
Et puis, vu le parcours que vous avez au théâtre, les grands noms avec lesquels vous avez collaboré, ce serait carrément logique qu'au cinéma, le pendant de cette vision-là de la culture s'intéresse à vous.
Parce et puis, c'était surtout, c'est eux qui avaient la main.
Ouais,
enfin, et à juste titre, d'ailleurs. C'est pas... Mais donc, tu comprends que tu ne corresponds pas, en fait. Donc, tu fais, c'est terminé. Enfin,
c'est
voilà.
Bizarre de ne pas correspondre à ce point dans le cinéma et de correspondre à ce point au théâtre. D'avoir tourné avec les plus grands au théâtre.
Ouais,
vraiment les plus grands au théâtre.
Ah oui,
quand on voit quand on voit vraiment les pièces, les rôles que vous avez joués, vous avez vraiment un CV impressionnant en théâtre, Clovis Cornillac. Et se dire qu'à cette même époque-là, le cinéma n'est pas au rendez-vous.
Oui, mais parce que je pense que ce qui intéressait les metteurs en scène de théâtre, les grands metteurs en scène dont vous parlez, c'était le fait justement que je n'étais pas un produit du théâtre. Et que j'amenais quelque chose de très physique, de très frontal.
Oui.
Je me plaçais pas comme un intellectuel. Je réfléchissais évidemment, mais je jouais un peu au con aussi. Et en même temps, j'étais très impliqué dans le travail. Du coup, ça permettait, je pense, pour les pièces, d'amener aussi du corps, d'amener quelque chose qui soit pas que en haut, mais qui soit aussi physique.
À quel moment, parce que c'est marrant, on retrouve un peu le côté, est-ce que je suis dans la norme ou pas, est-ce que je rentre ou pas dans le système de la société, mais là, dans le système du cinéma, à quel moment, Alice Paul, vous êtes dit, là, ça y est, la famille du cinéma m'accepte. Ça a été des grands succès avec Danny Boone.
Jamais dit, en fait.
Il y a quand même des signes qui ne trompent pas sur le fait que...
Non, je me suis dit, c'est lancé... En fait, à vrai dire, c'est arrivé plus tôt que ça. Ça m'a rechouillé, je commence un peu à tourner, enfin à sortir la tête de l'eau. Et je fais une publicité IKEA avec Pascal Chaumeil, le monsieur qui a fait l'arnaqueur.
Ouais.
Et on fait une journée de tournage où c'est vraiment une scène de comédie romantique, une pub rigolote à jouer. Et vraiment, on finit la journée, il me dit au revoir, alors il me dit des trucs très sympas et tout. Et vraiment, je le regarde et dans ma tête, je me dis, ça y est, il m'a vu, je suis devenue...
J'existe, c'est ça ?
J'existe.
Je suis plus transparente comme on rejoint le.
J'ai dit, et sans avoir eu besoin de faire. Parce que je me suis posé des questions, je me suis dit, mais je sais pas me mettre en avant, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, j'y vais. Blablabla. Et en fait, face à ce monsieur, d'un coup, j'ai dit, ça y est, mes épaules se sont. Je me suis tenue
ouverte,
droite.
C'est ça.
Vraiment. Et comme
c'est
marrant,
c'est intéressant de voir le moment où les choses basculent.
C'est le switch, ouais, et après évidemment, super chondriaque, raide dingue, c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'en plus, il y a ce partage avec mes partenaires, avec mon metteur en scène, il y a ce partage avec les gens.
Et le succès public, ouais, c'est ça.
Et ça, d'arriver dans une salle, voilà, c'est un moment extraordinaire.
Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous montez une armoire Ikea en kit, vous sentez votre...
Je suis persuadée d'être bonne en bricolage, mais je suis nulle, c'est ça qui est assez triste dans mon cas.
Jean-Pierre Bourly nous a rejoint. On va continuer de parler de C'est magnifique, le nouveau film de Clovis Cornillac. Bonjour Jean-Pierre, merci de venir à ce micro. Vous êtes secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Son objectif donc est de dire que lorsqu'on est sous X, on peut retrouver les parents, nos parents.
Les naissances sous X ont existé dans notre histoire depuis la Révolution française, sans discontinuer. À partir de 2002, on crée le NAOP, avec la loi du 22 janvier 2002, pour essayer d'aider les personnes nées dans le secret de l'identité des parents naissants, ce qu'on appelle prosaïquement naissance sous X, d'accéder à leurs origines personnelles. Avec, une condition, de pouvoir identifier les parents naissants, et ça c'est dans les dossiers, ça existe ou ça n'existe pas. Lorsqu'un secret est surdéterminé, ben, il n'en existe pas, d'où l'expression naissance sous X, parce que sur les rubriques... renseignements concernant les parents naissance, vous avez nom X, prénom X.
Et est-ce que les parents disent dès le début, on veut que notre anonymat soit protégé, ou on est d'accord pour qu'un jour notre enfant sache?
Alors depuis 2002, ça a été formalisé, on a créé le CNOB que je dirige depuis 6 ans, qui est une instance publique au sein du ministère de la Santé, gratuite et dans une démarche déontologique et éthique. Lorsqu'une femme accouche dans le secret, elle peut, depuis 2002, en décider lors de l'accouchement au sein d'une maternité. Et la loi a ainsi prévu cette double condition pour des raisons de santé publique. Et le Conseil constitutionnel a dit que c'était un principe de valeur constitutionnelle, la protection de la mère et de l'enfant. Elle peut en décider. Juridiquement, ça signifie que l'enfant qui doit être déclaré dans les 5 jours, en général très rapidement... est déclaré avec 3 prénoms. Il n'y aura jamais de lien juridique de filiation entre la mère de naissance, mère biologique, et l'enfant. Donc là, la mère est informée de jour et de nuit.
Quand vous dites 3 prénoms, c'est-à-dire pas de nom de famille?
Pas de nom, il y a 3 prénoms.
C'est ça, mais pas de nom de famille.
Il n'y a pas de nom de famille. Le troisième prénom sert de nom patronymique. Pendant 2 mois, la mère de naissance peut se rétracter, dire « Ok, j'ai réfléchi, j'ai changé de décision » et reconnaître l'enfant, sans problème. Au-delà des 2 mois, l'enfant devient pupille de l'État à titre définitif. Il est donc adoptable. Et compte tenu de la diminution vertigineuse de l'adoption internationale, il est adopté plénièrement la plupart des temps, du temps après un jugement du tribunal judiciaire, qu'on appelait avant le tribunal de grande instance. Et de ce moment-là, l'enfant devient l'enfant de ses parents adoptifs de manière plénière jusqu'à la fin de sa vie. On établit un nouvel acte de naissance. Et il porte le nom définitivement de ses parents adoptifs.
Est-ce que généralement tous ces enfants souhaitent connaître leur origine un jour, généralement quand ils deviennent eux-mêmes parents, peut-être ils veulent savoir qui sont les leurs.
Cette question, elle est fondamentale parce qu'il y a beaucoup de lieux d'idées reçues. Il y a entre 100 000 et 200 000 enfants nés dans le secret de 1900 à aujourd'hui. Et ceux de 1900 sont peut-être décédés, mais leur filiation en ligne directe pourrait saisir le CNOB. En 20 ans d'existence, le CNOB a reçu que 12 000 demandes. Donc c'est un ratio, contrairement à ce que l'on pense, de l'ordre de 5 à 10 % de personnes intéressées qui pourraient saisir le CNOB et qui peuvent accéder à l'identité des parents naissance via le CNOB qui ne le font pas. Enfin, 85 à 90% qui ne le font pas. Alors, il faut être précis, rigoureux, à l'heure des réseaux sociaux d'une part... Et puis, il y a certains enfants, surtout au début du XXe siècle, qui ne savaient pas qu'ils étaient adoptés.
Est-ce qu'à l'inverse, des parents font la démarche aussi de dire, à la fin de leur vie, je voudrais recontacter l'enfant que j'ai eu et le lui dire, tout lui raconter?
Pas à la fin de leur vie,
dès le lendemain. Je pense à des virages importants.
Très sombre en ce moment, Nagui.
Oui.
Très sombre.
Ils peuvent lever le secret à tout moment, sans problème.
Le Conseil national, je le rappelle, pour l'accès aux origines personnelles. Merci Jean-Pierre Bourly d'être venu à ce micro. Voici le héros du jour, monsieur Alexis Le Rossignol.
Ah oui, c'est moi. Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Tatoua, bonjour Tatoua.
Ça va les Parisiens?
Très bien. Bonjour.
Oh, le héros du jour.
Ça va. Hein.
C'est un Japonais qui a perçu 333 000 € d'aide pour le Covid à la suite d'une erreur humaine. Et qui savait que c'était une erreur, mais qui les a dépensés quand même. Voilà. J'ai lu ça dans La Provence. Et comme le dit le célèbre adage, un Japonais dans La Provence, un sushi dans la bouillabaisse. C'est la mondialisation. Pas, c'est gênant. Je vais vous dire un truc. Faut que je vous avoue un truc. Il y a des vannes mais qui sont pas de moi, qui sont de Jean-Baptiste Bussière.
Mais elles sont moches.
Parce qu'il relève les papiers à chaque fois.
Et en plus, ça balance.
Et il rajoute des vannes.
Alors, je les enlève toujours, moi.
Et quand on rit, tu le dis que c'est ses vannes ou pas?
Non, parce que je les enlève toujours d'habitude. Mais là, je me suis dit, je vais la laisser.
Ah, tu la laisses.
Ouais, ouais. Ce qui suivait, il a écrit, il n'y a plus de frontières, bientôt il n'y aura plus de pays et on crevera tous à cause des femmes. Voilà où on en est.
Mais non,
voilà
ça
où
je
on
crois
est.
Pas, ça
j'ai
je
besoin
crois.
De parler.
Fou. Voilà, je crève l'abcès, on est en fin de saison.
Tu crèves Jean-Baptiste.
Non, Jean-Baptiste, son truc, c'est le racisme.
Faut dire
c'est
la vérité.
C'est pas la misogynie.
Il adore ce genre de vannes.
Il aime le racisme.
Il aime nous mettre, nous balancer.
C'est racisme.
Ben, je suis soulagé, tiens, voilà, ça c'est dit.
Oh, le
en tout cas, c'est intéressant de faire ce genre de, enfin, de lire ce genre de faits divers, parce que on se met toujours à la place de la personne concernée pour essayer de deviner ce qu'on aurait fait si ça nous arrivait. D'ailleurs, ça nous arrive parfois, toute proportion gardée, tu vas à la boulangerie, tu prends une baguette et un croissant, ça coûte 2,30, et avec ceci, ce sera tout, tu donnes un billet de 5, la boulangère te rend 3,70, j'ai compté pour vous, ça fait 1 € de trop. Tu t'en rends compte après, mais bon, est-ce que tu fais demi-tour? Pas nécessairement. Tu dis, oh, c'est pas la fin du monde. Ou, elle a qu'à faire attention. En plus, elle touche les pièces avec les mains, j'y retournerai plus. Là, évidemment, il y a un enjeu. Il a touché 338 000 €. C'est une belle somme, quoi. Et dans ces cas-là, t'as deux types de réactions. T'as ceux que j'appelle les bouillants. C'est ceux qui disent, oh, moi, je les garde. Hein. Alors là, ils peuvent venir les chercher, Macron. Avec ce que je paye d'impôts, j'y rentrerai pas. Hein. Ça, c'est les gens qui se mettent déjà comme s'ils l'avaient gagné, quoi. Ils sont là, McKinsey, ça a coûté combien? Et Roland Garros, il gagne combien, celui qui gagne? Il mélange tout. Les mêmes qui disent, celle-là, dans mon lit, elle s'ennuierait pas. Hein, en voyant une campagne de sensibilisation pour le cancer du sein, quoi. À l'inverse, t'as des timides, t'as ceux qui osent pas. Hein, qui disent, attends, si je me fais attraper, j'aurai l'air malin. Ça, c'est ceux qui ralentissent à 40 km/h dès qu'ils voient un radar sur la route. Quoi. On sait jamais s'il est mal réglé. Mais fais du vélo, mon vieux, merde. Mais au-delà de ces réactions spontanées, non. Je pense que cette info pose une question quasi philosophique que je vais vous soumettre, hein, même si j'ai bien conscience. Voilà. Sur la grille de France Inter, on n'est pas sur le meilleur créneau. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'on doit sans arrêt relever les erreurs des gens? Tu reçois 338 000 € par erreur. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire un scandale? Hein, on vit déjà dans une société quand même qui est un peu tendue de la ficelle. Est-ce que c'est nécessaire d'en rajouter, quoi? En plus, 333 000 €, c'est une grande somme pour l'homme, mais une petite somme pour l'humanité, quoi. Ouais. Alors, en 2015, c'est 6 milliards de dollars qui avaient été versés par erreur sur le compte d'un particulier de la Deutsche Bank.
Mais
6
non.
milliards. Là, t'as de quoi faire un abandon de domicile. Hein. Papa va acheter le journal, il revient. On a toujours tendance à s'inquiéter.
Mais comment tu te tais surtout quand tu...
Ouais.
6 milliards.
Ouais, ouais, c'est vrai, véridique. Et on a toujours tendance à s'inquiéter quand les montants sont élevés. Ouais. Parce qu'on n'est pas habitué. Ouais. Mais il y a des gens qui parlent en millions tous les jours. Et pour eux, c'est rien, quoi. Ça, tu le comprends quand tu bosses en entreprise, que tu transpires un peu en présentant une note de frais à 16 €, puis qu'un jour, t'apprends que ton chef, il mange pour 70 balles tous les midis.
C'est clair. Ouais, ouais.
Alors, pour info, le Japonais en question a tout dépensé dans des casinos en ligne. Ça, c'est clairement l'attitude du joueur de poker qui se dit « Allez, j'ai une grosse somme, je mise tout. Si je deviens riche, je rembourse ce que je dois et j'ai de l'avance. Ouais. Si je perds, tant pis. » Patrick Bruel du Soleil Levant, quoi. Et il a tout perdu. Mais il s'est engagé à tout rembourser. C'est parce que c'est un héros.
C'est
même si ça a dû prendre beaucoup de temps. Tu m'étonnes. J'ai envie de lui dire « Fais une cagnotte, mon vieux, ça marche toujours bien, les cagnottes. » Parfois, les gens demandent 1 000 €, ils collectent 5 000 €. Quoi. Qui sont ces gens qui mettent encore de l'argent quand la somme demandée est atteinte? Typiquement, le truc que je ferais jamais, quoi. Vous êtes déjà à 1 000 €? Bon, ben, j'ai pas mis, mais c'est super pour vous, quoi. Sinon, pour finir, Florence est là, et je voulais faire un petit clin d'œil. J'ai joué en Belgique ce week-end. Et alors, j'ai découvert une recette qui s'appelle la pêche au thon. Je sais pas si vous connaissez. La pêche au thon, c'est des demi-pêches au sirop dans lesquels ils mettent du thon à la mayonnaise.
Oh non.
Et ça existe.
Oh.
On dirait une blague qui a pas marché, qui s'est retournée contre eux. Ce truc-là existe, messieurs dames. Même moi, j'y croyais pas. Et ils le mangent.
Vous bouffez des grenouilles, les gars.
Non, non, pas nous.
Ouais, mais pas forêt en
fait. Non, ça c'est une vieille rumeur, c'est faux.
Non, non, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, la grenouille.
Oui,
ah ouais, non, mais c'est très bon. Mais
t'as pas ça tous les jours à la cantine.
C'est plus cohérent, enfin pour moi, comme ça, hein, d'un point de vue de test dans la bouche, d'imaginer voilà de la grenouille effectivement avec de la confiture et du sirop de poire. Je me dirais là c'est compliqué, donc c'est l'association du thon et de la pêche avec quoi,
c'est que pour la vanne
et de la mayonnaise.
Non, mais c'est pour la vanne, j'imagine.
C'était Alexis Le Rossignol.
Ouais, bon, c'était peut-être une pêche.
Non, mais c'est
Alexis Le Rossignol.
C'est ça qui me fascine,
c'est un jeu de mots, quoi.
Tanguy Vassureau nous a rejoint. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
De quoi parles-tu aujourd'hui?
Eh bien, moi aussi, vous parlez d'argent. J'ai trouvé un article de GQ intitulé « Les 5 choses les plus chères que Jeff Bezos et Elon Musk ont achetées alors très peu d'achats chez Lidl ».
J'ai même attendu Tanguy.
Oui.
C'est la bande originale avec Lila Catherine, Morgane Gabignan, oui. Florence Mendez, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, nos invités Alice Paul et Clovis Cornillac.
C'est super.
C'est magnifique au cinéma ce 1er juin, mercredi. Ce film sort enfin, puisqu'il a été tourné avant la pandémie. Mais il est toujours formidablement d'actualité parce que totalement intemporel, ce conte. D'ailleurs, il est spécialement, j'allais dire, il est pour enfants ou il est pour tous ceux qui ont su le rester, à votre avis, Alice Paul?
Je pense que c'est une grâce de le rester. Alors, il faut y aller dans tous les cas. Si on ne l'est plus, pour y revenir. Et puis, si on l'est encore, pour en profiter. Et les enfants aussi. Et chacun sa lecture. Après, on peut comparer. Ça donne des trucs un petit peu divergents, mais c'est ça qui est drôle.
Si on ne l'est pas, pour voir ce que c'est.
C'est un film familial, parce que c'est vrai qu'on peut y aller avec ses enfants. Il y a des éclats de rire dans la salle qui font du bien. C'est ce que vous avez d'ailleurs découvert en faisant les projections en province, Clovis Cornillac. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont. Des réactions du public qui vous ont. Surprise par rapport à ce à quoi vous attendiez?
Je pense qu'on est heureusement souvent surpris. Et ce que je pourrais être, pour être un petit peu plus peut-être précis sur le. Effectivement, quand on dit familial, on a l'impression, enfin souvent c'est l'effet que ça me donne de se dire qu'il faut être en famille. Je ne crois pas, je pense qu'il est intergénérationnel plutôt.
Non, je dis tout le monde peut y aller. Quoi.
C'est ce que je dis. Ouais. Non, mais souvent parce que pareil, aujourd'hui quand tu fais des films.
Voilà, c'est pas le film des vacances. Quand on fait des vacances scolaires. Ouais,
Typiquement, tu dis si t'es seul ou machin, tu dis c'est pas pour moi. Tu fais si. En vrai, le film, j'ai l'impression qu'il est. Pour nous tous, en vrai. Cette notion, justement, t'as des familles qui, et ça, c'était hyper agréable pendant la tournée, là, de présenter le film, c'est que t'en as qui viennent en famille, t'as des jeunes couples, machin, t'as un gars tout seul, tu lui dis, pourquoi vous êtes venu? Parce que ça t'intéresse, c'est quand même, une affiche avec, on a encore des trucs dans la tête, une affiche avec des fleurs, un bisou sur la joue et tout. Tu dis, est-ce que un gars tout seul de 45 piges, il va venir? A priori, c'est pas évident.
C'est pas naïf, l'affiche. Comment vous l'avez décidé? Comment se décide le dessin, la photo, la gestuelle?
C'est un process. Ouais, c'est un process. La couleur, elle est liée vraiment au film. Le film a une colorimétrie particulière.
Elle est poussée.
Oui, c'est assez pop. J'avais envie d'un truc qui soit en même temps qui nous sorte pas complètement du réel, mais qui soit, comme on disait tout à l'heure, un peu intemporel. Il récupère un appartement qui est figé dans les années 70.
On est dans la ville des Lumières, donc il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de la couleur.
Oui. Ouais, et puis d'essayer, c'est un personnage à Lyon, dans le film, un peu idéalisé, dans le prisme du regard de Pierre, que tout est un peu plus joli, tout est un peu plus beau que ce que nous, de ce qu'on peut en percevoir avec des fois notre tête baissée en marchant vite dans la rue. Quoi. C'est d'avoir une sorte de regard sur ce qui nous entoure. Mais sur l'affiche, concrètement, c'est des process qui sont assez longs et qui emmènent, enfin qui, on est nombreux à parler là-dessus. Moi, très souvent sur mes films, j'ai eu des affiches, les films que j'ai réalisés, je veux dire, j'ai eu des affiches que je trouvais pas très belles, mais c'est pas très grave en vrai, parce que t'adores l'idée d'avoir une belle affiche. Ça te fait rêver, c'est-à-dire tu cherches la belle affiche. Mais une affiche, elle est faite aussi pour donner une information et pour donner envie. Mmh. Et là, il est question de marché, il est question de trucs beaucoup plus acides que ton espèce d'engouement en disant « j'aimerais un dessin, un artiste qui fasse un super dessin, un tableau presque ». Et tu dis « ouais, mais personne n'y va ». Donc l'envie quand tu fais du cinéma, c'est de le partager, c'est vraiment d'avoir... trouver l'équilibre entre t'espères une forme d'élégance et en même temps pouvoir rassurer des gens qui pourraient avoir peur d'aller voir un film, qui disent c'est pas pour moi. Ça m'est arrivé sur des films auxquels j'ai participé comme acteur où les affiches étaient très belles, mais.
C'est comme de la promo.
C'est un objet de communication.
Ça devient des objets de collection aussi.
Quand elles sont très belles.
Et si on en parle, c'est que c'est réussi en fait, tout simplement.
C'est-à-dire
on est en train d'en parler, donc c'est réussi.
Absolument. Mais le film est réussi. Il a été au festival du film francophone d'Angoulême, au festival d'Alpes d'Huez aussi. Ce film dans la sélection officielle. Et il est signé Clovis Cornillac. On va continuer d'en parler jusqu'à 12h30. D'abord, voici Tanguy Pastureau.
Ah,
pas mal.
Parfois, avec Alexis Le Rossignol, on discute argent. Il me dit, avant, j'étais sur l'humain, mais aujourd'hui, je réalise que ce qui compte, c'est le fric.
C'est vrai.
Je lui réponds, ça va, parce que tu me dis ça à moi, mais ne tiens pas ce genre de propos sur France Inter, ça va te coûter ta place. Il me dit, je m'en tape, j'ai placé 200 briques dans le bitcoin, je me suis même payé un NFT de Madonna en train de se lécher le téton droit, mais j'ai pas su quoi répondre, parce que moi, j'en étais resté au mec des rouleaux de jambon, quoi. Et je juge pas, je comprends cette évolution. Regardez Zaz. Pendant des années, elle a chanté dans le métro, elle remontait même plus à la surface. Pour la faire sortir, ses proches étaient obligés d'utiliser des fumigènes anti-taupe. Il y a même un cousin qui s'était pris au jeu, qui l'avait mis un coup de pelle quand elle a sorti la tête. Et ben maintenant, elle est riche. Elle vit dans une yourte dorée à l'orfin avec des altermondialistes qataris. Et ben on continue de l'aimer. En fait, l'argent ne nous change pas forcément en profondeur. Jean-Jacques Goldman, il a dû empocher 3 milliards de droits SACEM. Et pour autant, le truc le plus tape à l'œil dans sa vie, c'est aller acheter des chips au Franprix avec son VTT. Et heureusement que tout le monde ne part pas en sucette, parce qu'en moyenne, chaque humain émet 6 tonnes de CO2 par an, mais les 10% les plus riches sont à 31 tonnes. Et Jean Castex, depuis 8 jours, est tombé à 2 grammes de CO2 par semaine, parce que tout ce qu'il fait, c'est jouer aux boules. Un lundi, il a fait exploser son bilan carbone parce qu'il s'est acheté des chaussons neufs. Tenez, hier sur Internet, je lisais sur le site footballetveganisme.fr l'interview d'Emery Caron qui disait que son joueur préféré avait toujours été Franck Leboeuf. Quand une alerte du site GQ s'est affichée, je me suis abonné à GQ pour comprendre comment avoir les abdos des types en photo dans GQ. Ça fait 3 ans, j'ai toujours pas compris. Apparemment, il faut faire du gainage, rester dans la position de la planche. Bon, moi, j'ai réussi à faire la position du bâton pété pendant 25 secondes. Bah, rien, zéro abdo. Et là, l'article en question parlait d'argent. J'ai pensé à Alexis. Le titre, les 5 choses les plus chères que Jeff Bezos et Elon Musk ont acheté. Alors, Bezos, je resitue, c'est le fondateur d'Amazon, le service qui livre vos piles LR6 avant même que vous ayez eu le temps de cliquer sur acheter. Hein, les livreurs sont plongés dans une cuve de coke. Ensuite, ils font Paris-Melun à vélo en 7 minutes. Et le temps que le Viagra agisse, grâce aux piles, on peut faire tourner le sexe. Bon, Bezos a 132 milliards de dollars. 132 milliards. S'il introduit sa CB dans une tirette de la banque postale, la tirette prend feu, puis la banque postale, puis la France. Donc Elon Musk, de son côté, bah, est le créateur de Tesla, les voitures trop silencieuses qu'on n'entend jamais arriver et qu'on se prend dans les pattes en traversant. 90% des Q-jets aujourd'hui sont dus à Tesla. Hein, il a 218 milliards de dollars de côté, et même de derrière et de devant, puisque de côté, il n'y avait plus de place. Il a aussi un fils. Alors, Elon Musk a un fils qu'il a appelé X AEA-12. Voilà, alors ce qui est très sympa comme prénom, mais pour un robot dans le prochain Star Wars, quoi. Là, le petit a 2 ans, il en est déjà à 2 ans de psychanalyse. Ses premiers mots ont été « Papa, va te faire foutre ». Donc sinon, Musk et Bezos bah, se livrent la bataille de la conquête de l'espace. Ça ressemble au jeu de celui qui fait pipi le plus loin, mais avec des fusées à la place des pénis. Les deux se ressemblant d'ailleurs étrangement. Bon, à 2-3 différences près. Exemple, si votre pénis se met à cracher de la fumée et à prendre de la vitesse, il est possible que vous ayez une maladie vénérienne assez coriace. Hein, la variole de l'antilope ou un truc comme ça. Donc voici les 5 choses les plus chères que Jeff Bezos a achetées. 1. Un Gulfstream G650ER. C'est un jet privé ultra rapide. Vous voyez les Vélib ? Ok, c'est plus rapide et avec des ailes. 2. Un penthouse à New York. Le classique. Toute personne qui réussit a un penthouse à New York. Et, par exemple, Valérie Pécresse n'a pas de penthouse à New York. 3. Une maison à Los Angeles avec son jet ultra rapide depuis New York. Il met le même temps pour y aller que le Parisien qui a un F2 à Jouy-sur-Morin. 4. Le Washington Post. Il s'est payé le Washington Post. Alors, pas le journal le papier, hein, le journal l'entreprise. 5. Ouais. Blue Origin. Bon, sa boîte de projet spatial. Alors, du côté d'Elon Musk, il a acheté 1. Un hôtel particulier à Los Angeles. 7 chambres, 9 salles de bain. C'est-à-dire que s'il invite 8 copains, tous ceux-là, 1000 enfants et qui ne dort pas. 2. Un Falcon 15. Alors, c'est un engin spatial qu'il a bricolé, il a fait faire. Bon, 3. Un Gulfstream G650ER. Voilà, comme Bezos. Voilà, parfois, il se croise dans le ciel, il s'engueule. T'as pas vu la priorité, tête de fion. Enfin, bon. 4. Solar City, une boîte qui construit des panneaux solaires. Le Finistère en a acheté en 2007. Ils n'ont encore jamais servi. 5. SpaceX, sa boîte de projet spatial. Bref, à partir de ces deux hommes, établissons des généralités. Le très riche aime donc les grandes maisons, les avions privés. Un jour comme nous, il a dû faire 8 heures de vol avec un bébé qui braille parce qu'il a mal aux oreilles. Il s'est dit plus jamais ça. Et le très riche a envie de se barrer dans l'espace. Le jour où il a fait 8 heures de vol avec le bébé qui braille, il a dû vouloir se rabattre sur le film de l'avion. Il y avait Boule et Bill 2 avec Franck Dubos qui s'est dit plus jamais ça, je quitte la Terre, terminé, basta. Alors bien sûr, ce genre d'achat va avec votre fortune personnelle. Moi, quand j'achète Le Parisien, c'est celui du jour au kiosque, pas le journal entier avec la rédac. Sinon, j'achèterai GQ et je demanderai au responsable des pages fitness de me montrer pour les abdos. Mais il me reste un mois avant la plage. Je suis parti pour finir en juillet à la montagne, quoi. La montagne, c'est là où l'été, on parque tous ceux qui ont un corps pas top. Alexis et moi, on a réservé à la plagne.
Merci. Dans l'animation.
C'est magnifique, est au cinéma à partir de ce mercredi, à l'affiche Alice Paul et Clovis Cornia qui sont nos invités, mais également Manon Lemoine, Myriam Boyer, Gilles Privat, Alexandra Roth, Lilou Fogli, Laurent Bateau, Anne Benoît, entre autres. D'autres événements culturels, oui. Laïla, que se passe-t-il ?
Eh bien, il y a une nouvelle plateforme qui débarque, une plateforme cinéma qui est lancée par Gaumont. D'après vous, quelle est sa spécificité ?
Passer des films.
Que des vieux films.
Ouais.
Que du noir et blanc.
Absolument. Bravo. Des films en noir et blanc. Gaumont classique, à peu près 200 chefs-d'œuvre. C'est 5 euros par mois pour les abonnés. Alors, je sais pas ce que je vais faire de tous mes DVD. Donné, 5 euros par mois pour voir plein de vieux films. Il y a du Chabrol, du Guitry, du Louis Malle, du Lautner, du Fellini, du Becker. Moi, je trouve ça exceptionnel.
Ils ont un catalogue fabuleux.
C'est génial.
C'est à volonté, surtout.
Mais voilà, ouais. 5 euros par mois pour voir tout ça. Des films qui sont pas forcément faciles à trouver de toute façon en ligne. Trouver en DVD, pas forcément évident. Et quand on a envie de voir ces films-là, souvent, on a envie de voir les films tout de suite. Là, il suffit de se connecter.
Et puis, ils travaillent bien parce qu'ils restaurent les copies. Ils bossent sur le
Gaumont classique. Gaumont classique, tout simplement. Tout ça pour vous demander, est-ce qu'il y a un classique à conseiller ? Tout à l'heure, Clovis, vous nous avez parlé d'un film qui vous a marqué avec Dario Moreno.
Ok Mambo.
Et est-ce qu'il y en a un autre ?
Il y en a plein.
À conseiller, un classique qu'on pourrait éventuellement voir sur cette plateforme.
Je veux pas dire, comme je connais pas, je voudrais
Gaumont
pas dire.
un qu'on pourrait voir en général, pas Gaumont, oubliez Gaumont.
Ah bah il y a le premier de Kubrick qui est à voir, qui est un polar absolument.
Comment il s'appelle ?
Fabuleux. Alors en français c'est.
Non mais en russe, en ce cas.
Non,
le russe. Ouais, il maîtrise le russe. Bon, c'est pas grave.
On va le trouver.
C'est un pur chef-d'œuvre.
Le sentier de la gloire.
C'est un polar qu'il a fait avant, qui s'appelle. C'est un braquage. Mais c'est génial. Le film est absolument génial.
Alice Paul, quel est le
Fear and Desire?
Ben.
La grande vadrouille.
Non, bah aussi je pense à plusieurs, mais non, le premier film vraiment classique que j'ai découvert, c'était La Règle du jeu, Renoir, je me rappelle. Et c'était fascinant, quoi.
Qu'est-ce que vous aimez au cinéma quand vous allez en tant que spectatrice ? Ce sont les émotions qu'on vous embarque.
Voilà.
C'est de pleurer, c'est d'avoir peur, c'est de rire. C'est quoi ?
S'évader, c'est rentrer dans un autre quotidien, c'est découvrir quelque chose, rire, pleurer, être touché. D'ailleurs, j'ai horreur, par exemple, d'aller aux avant-premières avec plein de gens que je connais parce que je suis obligée de. On se sent tous obligés de dire des choses alors que c'est juste une émotion. Et on n'a pas besoin de disséquer son émotion.
Et donc vous n'allez pas voir les super productions, les Marvel, les Avengers et
si,
autres.
Si je peux y aller aussi. J'aime absolument tous les styles et tous les voilà. Après j'ai une passion, une fascination pour Almodovar, j'en rate aucun. Voilà, il y a quelques obsessions.
Et on a retrouvé Clovis.
Oui, c'est l'ultime radia.
Voilà. Le conseil de Clovis Cornillac. Autre question, quel
ça,
acteur
ça c'était en anglais, mais sinon en français il avait appelé comment.
Quel acteur plus que controversé fait son retour à Cannes grâce à 3 films présentés au marché du film. Je précise.
Kevin Spacey.
Absolument. Kevin Spacey qui est au menu de 3 films. 3 films qui cherchent encore un financement, très clairement. Et il y a d'autres acteurs aussi qui posent un peu questions, qui peuvent être présents.
Il a pas demandé Harvey Weinstein de le
prendre. Oui, c'est vrai, il pourrait se mettre
ils
tous
ensemble.
Ils
ont des accointances.
Qu'il est dispo.
Il faut une boîte.
Alors, il y a des projets qui sont portés aussi par d'autres acteurs controversés, disgraciés ou en disgrâce, en tout cas, ou qui font que le marché du film ne s'empare pas très très vite tout d'un coup des projets, parce que Alec Baldwin évoque forcément cette mort sur ce tournage. James Franco...
Le mec qui fait la prochaine cascade avec Alec Baldwin, il est costaud. Mais...
James Franco, le procès de Johnny Depp, par exemple, en ce moment, ça donne pas forcément toujours envie d'investir de l'argent.
C'est d'ailleurs ce qu'ils disent au procès, c'est-à-dire le manque à gagner du...
par rapport à Pirates des Caraïbes, absolument. Et maintenant, comme l'affaire n'est pas complètement jugée et on ne sait pas combien de temps éventuellement on peut faire pour oublier, on n'a pas forcément envie d'investir sur ce genre de projet. Est-ce qu'on oublie vite ? Est-ce qu'on oublie trop vite ? Est-ce qu'il faut sanctionner à vie, d'après vous, des comédiens qui se sont, hélas, malheureusement, illustrés négativement dans leur vie privée ?
Non, mais ce qui me paraît juste compliqué, c'est... on revient souvent au même constat. C'est-à-dire, moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas que les gens soient poursuivis et condamnés quand ils ont fait des ouais. trucs qu'il faut pas faire, quoi. Ça me semble absolument injuste. Et ce qui, moi, mais au-delà simplement, c'est les réseaux. C'est-à-dire que ce que je trouve absolument déprimant et angoissant, c'est que quoi qu'ils se disent, c'est jugé et c'est fait. C'est-à-dire que c'est réglé, ouais. quoi. Quelqu'un dit quelque chose. Mais que ce soit des choses graves, ouais. Comme les viols, comme les... et au même titre que les gamins qui se font défoncer par d'autres à l'école, sur des scolaire. Réseaux sociaux. Ouais. Et en 4 secondes, tu dis, ce truc-là me dégoûte. Ouais. C'est ça qui me gêne, en fait. Le fait que ce soit une sorte de jugement général en 4 secondes. Tu te rends compte, il a fait ça.
Mais là, la grosse différence, c'est que ce sont des métiers artistiques liés au public et à l'amour du public. Un restaurateur, un plombier, un électricien, quoi qu'il fasse dans sa vie privée, ne serait pas condamné professionnellement à continuer d'être restaurateur ou électricien.
C'est proportionnel à la gloire qu'il connaît.
C'est ça.
Quoi.
Non, mais ce que je trouve, voilà, en tout cas, ce que je trouve dommageable, c'est surtout, moi, j'ai du mal avec tout ce qui
le
est
tribunal
réseau.
Populaire. Quoi,
ouais,
c'est ça.
J'ai beaucoup de mal avec ça. En revanche, la seule chose qui est sûre, enfin, c'est que les choses ont avancé.
Ouais. C'est ça, ça libère la parole aussi, ça.
Ouais,
bon.
Mais voilà, il y a un paradoxe dedans que je trouve quand même un peu à l'excès. Il y a un truc qui me gêne là-dedans. Après, que évidemment, que les salopards se fassent coincer, c'est très bien. Mais pas sur les réseaux, que la justice fasse le travail. Ouais.
On évoquait tout à l'heure, justement, et le fait, tant mieux que vous n'ayez rien subi à l'ISPOL de particulier dans le cinéma ou de désagréable, mais est-ce que le comportement, depuis les affaires MeToo, Weinstein et compagnie, a changé? Est-ce que vous avez ce sentiment-là, en tout cas, sur les tournages? Il y a même des référents maintenant sur les tournages.
Alors, je vous dirais qu'il y a ce qui est triste, je vais dire les choses, hein. C'est que quand on n'est pas grand-chose socialement, ça arrive. Et dès que ça marche, ça n'arrive plus. Donc ça explique aussi pas mal le comportement.
Donc
vous n'êtes
pas forcément bien placé pour...
Moi, c'est ça qui me... Parce que c'est ce chantage-là, je le trouve épouvantable. Après, je pense que ça a énormément changé les choses. Je pense que c'est arrivé... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ça m'est arrivé particulièrement dans le cinéma. Ça m'est arrivé... partout, en fait.
Dans la société,
des situations galères, des situations too much. Et ce que je trouve très positif, très honnêtement, c'est que je pense que moi, il y a une ou deux fois où j'aurais... où je pense que je serais passée par les flics, ouais. Je pense que je serais allée poser une petite main courante. Voilà. Et grâce aux filles qui l'ont dit, les prochaines gamines qui se trouvent dans une situation limite à 20 ans, elles vont y aller, elles vont le faire.
Elles savent
qu'elles
peuvent,
qu'elles doivent. À la différence de nous. Ouais, alors que nous, on avait du mal à mettre une espèce de limite, de truc, voilà. Donc ça, je trouve ça très positif, mais c'est pas plus au cinéma qu'ailleurs, je ne crois pas.
Absolument. Voilà. C'est magnifique, le film qui fait du bien, parce que, encore une fois,
qui doit être jouissif à jouer aussi, parce que ces personnages-là, ils sont super à jouer.
Il faut demander à Alice.
Et à vous aussi.
Oui, mais moi, alors...
C'est, Pierre, encore c'est une un fois, super c'est... personnage à jouer.
Non, mais c'est... Oui. Mais en fait... Non, mais
non,
ce que
oui
je veux
ou
dire...
Non,
non, je dis non parce que, en fait, ça...
Mauvaise réponse, okay. Vous allez dire oui.
Non, mais c'est...
En tout cas,
c'est... Je suis pas là... En fait, quand je fais le film, je vous jure, je suis pas en train de me dire est-ce que je prends du plaisir ou pas à jouer. Non, ce qui m'intéresse, c'est les autres. C'est évidemment tous les acteurs, c'est le film. Oui. Et en fait, je prends très peu de temps sur moi. Je suis pas là en
kiffage. Tu fais deux prises.
Quel genre de metteur en scène est-il? Il est très directif. Il sait exactement ce qu'il veut.
Ah, il est pointu sur ce qu'il veut raconter, sur là où il veut aller. Moi, je travaille beaucoup et pas une fois, j'ai pu avoir un tour d'avance. Ça arrive parce que quand on est acteur, on n'est que sur une chose. Le réalisateur, il est sur tout, ouais. Avec tout le monde, toute son équipe.
Il doit
et
avoir
le nombre
toutes
de
toutes
fois
réponses.
Où j'ai essayé de lui poser des questions. Oui, mais je me suis dit quand même parce que tu vois, Anna, là, il vient de passer. Oui, mais il s'est passé ça parce que ça, parce que ça, parce que ça. Ah, d'accord. Mais je dois dire vraiment, c'est pas parce qu'il est là. C'est merveilleux de tourner avec lui. la générosité, on sait que c'est très important, la confiance, et c'est vrai qu'il m'a dit un truc au tout début du tournage, je lui ai dit, mais en fait, si on a choisi le bon casting, on n'a pas besoin de parler des heures, on se comprend, et c'est exactement ce qui s'est passé.
J'ai juste précisé que dans le casting, tout était parfait, tout était juste, sauf le mec qui fait l'animateur télé, il est vraiment pourri, vous ferez bien de faire attention la prochaine fois.
Hein. Oh, ça fait longtemps qu'il ne travaille plus, hein. il faut aussi faire bosser les gens un peu âgés.
Oui. Faut virer la personne qui est à l'intérieur, surtout.
J'espère que vous ne l'avez pas payé, en tout cas, celui-là. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour nos invités, Alice Paul et Clovis Cornillac, qui ce matin sont venus défendre un film sur la bienveillance. Dans la bande originale, l'ABO repère bien connu de salopards, pervers, cyniques, criminels, drogués et désormais racistes, grâce à Morgane Cadignan, qui s'est moqué sans vergogne des Camerounais suédois. Peu nombreux, mais
c'est
tellement
honteux.
Sympathique.
C'est tellement honteux.
Désolé, cette fois pour Florence Mendez, qui après 8 versions de C'est magnifique dans le blind test, nous a quand même proposé un I just can't get enough de Depeche Mode. Alors on vérifie qu'en plus d'être distraite, elle a une oreille musicale plutôt pourrie. Vérifions, est-ce que le son de Depeche Mode a un rapport?
Comment dire?
Je crois que non. Rien à voir.
Rien.
D'accord, Nagui,
rien.
C'est navrant.
Bon,
désolé pour Clovis Cornillac, qui, on a bien compris, n'a pas eu l'argent pour mettre cette version. Ah, trop cher, Ella Fitzgerald. Ni celle-ci, d'ailleurs, ni celle-ci. Ah, tellement suave, Dean Martin. Franchement, Clovis, si vous faites une suite, si vous êtes en galère, Florence vous dégotera sa version inattendue de ces magnifiques. Non?
Si.
Non,
si,
on l'a pas?
Si.
Là, voilà la version de Florence Mendez. Désolé pour Alice Paul, qui, on l'a bien entendu ce matin, a vécu un moment à part, en commençant par dire « exclus » au lieu d'exclu au bout de 27 minutes d'émission, puis en découvrant le jour et l'heure de notre émission. Comment dire? Alors, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Alors, en face, là, c'est Nagui, c'est pas Laure Adler. Moi, c'est Léa Salamé. Bienvenue sur RTL.
Merci, Daniel Morin. Merci, Alice Paul. Merci, Clovis Cornillac.
La vie est là, qui vous prend par nos bras. Oh là là là.
Mercredi au cinéma,
c'est magnifique.
Et on va rester dans les couleurs.
Ça,
demain, nous serons dans le noir avec Sylvain Tesson et son livre très 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 dark autour de la mort et des idées suicidaires. Mais c'est Sylvain Tesson, c'est brillant et ça sera demain. Merci beaucoup et plein de bonnes choses.
Merci.
Merde, comme on dit, pour la sortie de ce film mercredi prochain.
Et merci aussi, je le dis, parce que effectivement, dans le film, c'est pas une vanne. Il y a Nagui. Et c'était important, on le comprend pour le film, pas parce qu'il est bon, hein, simplement parce que ça fait vrai. C'est-à-dire que ça fait et c'est un vrai enjeu dans les films.
Ouais.
Souvent, on ne croit pas aux journalistes à la télé qui font les journaux, tout ça, parce que c'est des acteurs, on essaye de se débrouiller pour le faire le plus vrai possible. Et c'est pour ça qu'il a bien voulu me suivre, c'est parce que je lui ai expliqué qu'il me fallait un vrai gars identifié qui sait présenter les jeux. Et
après
ça marche très bien.
Après avoir dit non, hein, parce que.
Ah bah, toujours, tu dis d'abord.
Problème de pognon.
Bonne journée sur Inter, à demain.
Salut.